Le caucus avec Antonine Iaccarini maintenant à 12h30 sur les ondes de Boulevard 102.1 dans l'émission On en jase. Un 20 minutes d'actualité politique. Antonine nous décortique tout ça parce que c'est notre spécialiste. Je suis certain que les auditeurs sont très heureux de t'entendre. Dites-le au 418-971-101. Anto, t'as passé des belles vacances?
Oui, très belles vacances. J'ai cumulé beaucoup de choses à dire. Là, il va falloir que je me gère pour un 20 minutes de segment politique.
Excellent.
Mais on va y arriver.
Non, non, mais moi et Mathias, on fait 8 heures en ligne de radio. Fait que vas-y, parle pendant une demi-heure.
Allez prendre un café. Moi, je vais jaser avec les auditeurs. Il n'y a pas de problème. Mais non, restez, s'il vous plaît.
Yes, t'as aimé ton expérience dans le retour cet été?
Oui, écoute, ça m'a fait un bon 16 heures de radio par semaine.
Ben oui, c'est ça!
Fait que pour moi, c'est...
Puis là, t'as jasé d'autres choses que politique.
Oui, beaucoup de festivals, de nouvelles insolites. Tu sais, faut être imaginatif l'été. Hein?
Ben oui!
Mais il y avait quand même pas mal de politique.
Ben, clairement. Clairement,
on n'a pas un été mort, là.
Mais là, on est en pré-campagne, puis là, on va rentrer dans la campagne. Mais là, parlant de pré-campagne, Mathias, quelles sont les dernières nouvelles ou les derniers développements qu'on a sur l'entente Churchill Falls? Parce que là, je vois à la télé Tony Wakeham qui parle avec Christine Fréchette à sa droite, Mark Carney à sa gauche.
De l'eau en arrière d'eux,
de
c'est
l'eau
beau,
en arrière, à Saint-Jean-Terre-Neuve.
Oui, bien, on a pas mal, beaucoup de détails là, qui sont sortis au cours des dernières minutes. Ce qu'on savait sur le projet, sur cette nouvelle signature d'entente entre le Québec et Terre-Neuve, c'est qu'on prévoyait avoir beaucoup plus d'énergie qu'initialement. Donc, c'est 10 000 mégawatts que le Québec recevra, qui provient justement des installations de God Island et de Churchill Falls. On prévoit aussi la construction d'un parc éolien au Labrador. Ce qu'on nous informe, par contre, c'est que oui, on va avoir plus d'énergie, mais que ça va nous coûter beaucoup plus cher que ce qui était prévu. Finalement, le Québec qui paiera 6 cents le kilowattheure jusqu'en 2077. Donc ça, c'est une moyenne sur toutes les années. Donc, j'ai pas les chiffres exacts, mais probablement qu'on va payer un peu moins au début et un peu plus par la suite. Mais c'est 6 cents le kilowattheure en moyenne jusqu'en 2077. Par la suite, Hydro-Québec évalue que les investissements dans ces différentes centrales électriques-là totalisera un total de 70 milliards de dollars pour Hydro-Québec. Initialement, on avait prévu investir 25 milliards. Donc là, on a déjà un bon 45 milliards, mon chiffre était bon, 45 milliards supplémentaires qu'on va devoir investir. On va toutefois bénéficier d'une aide totalisant 6,5 milliards du côté du gouvernement fédéral. Donc, en gros, c'est ça qui ressort. Oui, on a plus d'énergie, mais pour l'instant, ça semble nous coûter beaucoup plus cher que ce que ça nous coûtait.
Antonine, la semaine dernière, je disais que c'était un coup de circuit pour Christine Fréchette d'arriver en campagne électorale et de montrer encore une fois que la troisième voie, ça fonctionne. Puis je me dis que la CAQ est en train de piger dans le buffet du Parti libéral au lieu du Parti québécois. Je me trompe-tu?
Bien, effectivement, parce qu'on se rappelle, la seule annonce vraiment de contenu que Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, a fait cet été, c'était pour dire que lui allait faire des alliances avec les autres provinces, qu'il allait bien s'entendre avec le fédéral. On n'a pas trop compris comment exactement ça allait être différent d'avec la CAQ, mais c'est exactement ce que Christine Fréchette illustre. C'est que tu n'as pas besoin d'être le Parti libéral nécessairement pour réussir à créer des alliances, à faire des deals avec d'autres provinces ou pour recevoir de l'argent du fédéral, c'est au rendez-vous. Maintenant, dans les détails, parce que là, on est dans l'impression générale, Christine Fréchette, elle joue à la première ministre jusqu'à la dernière minute. C'est très bon pour elle. Mais après ça, qu'est-ce qu'il y a exactement dans les petits caractères de l'entente? C'est sûr qu'il va falloir la décortiquer cet après-midi. Mathias le disait, on parle de plus d'énergie, on paye un peu plus cher. Là, c'est sûr que faut quand même comprendre que c'est des bons prix. Là. À comparer de l'entente de 1969, c'est sûr que c'est davantage parce qu'on on payait des peanuts.
Hey, justement, puis par rapport à ça, on a eu Pascal Paradis en entrevue dans Marceau le matin la semaine dernière. Puis il disait, ben voyons donc, on avait une entente jusqu'en 2041. On aurait dû garder cette entente-là. Puis là, il déchirait sa chemise, évidemment, sur le Canada.
Bien sûr.
Mais moi, je me dis, la pièce maîtresse du plan d'Hydro-Québec, c'est Churchill Falls, du plan de déploiement d'Hydro-Québec. On va se le dire en français, là, on ne peut pas continuer à crosser jusqu'en 2041 et souhaiter revoir de quoi. Là.
Bien, il faut aussi comprendre le ressentiment à Terre-Neuve-Labrador par rapport à cette entente-là. Nous, on s'en rend pas compte. Là. T'sais, je fais un vox pop dans la rue, je dis « Pensez-vous que Terre-Neuve sont fâchés après nous? » Les gens sont même pas au courant de ça. C'est une blessure très profonde. Terre-Neuve s'est sentie humiliée Et un adversaire ou un partenaire humilié, c'est quelqu'un qui est dangereux.
Okay? Ben oui.
Puis on peut s'en foutre. On peut dire, ah, c'est pas grave. Puis le PQ a raison. C'est cette entente-là qu'on payait des 0,41 cents du kilo.
Ça fait pas de sens.
Ça faisait pas de sens. Si elle avait tenu jusqu'en 2041, on serait arrivé aux négociations. Ils auraient été encore plus fâchés.
Ben oui.
On comprend. Puis là, je reviens un peu en arrière, là, parce qu'il y a une première entente qui a été signée en 2024 par François Legault et l'ancien premier ministre libéral Andrew Furey. Andrew Furey avait, pendant la conférence de presse, déchiré, il avait pris des papiers, là, il s'était imprimé l'entente, puis il l'avait déchiré en conférence de presse, qui avait été vu comme un geste un peu baveux, mais hautement symbolique, qui démontrait à quel point les Terre-Neuviens voulaient tourner la page sur un chapitre qui était humiliant à leurs yeux, à eux, et qui était très avantageux pour nous. Mais la tension aurait continué de monter. Fait que c'est une stratégie. Le PQ dit qu'on aurait pu garder cette entente-là, il n'y a rien qui presse. OK, mais sur quoi alors repose votre plan de développement économique? Celui de la CAQ, on le connaît, avec les défauts qu'ils ont à la CAQ, la filière batterie qui a été un échec, tout ça est vrai, mais ils ont un plan de développement économique qui repose sur davantage d'énergie, de la décarbonation, électrification des transports, des bâtiments, des projets de transport électrique. Bien, ça prend du jus pour nourrir ces projets-là.
Bien, c'est là que je trouve que le PQ l'échappe, puis je les trouve encore dans leur petite chicane avec le Canada, parce que le PQ veut développer aussi les projets économiques d'énergie propre. Bien, puis, ça passe par là.
Ou alors, donnez-nous l'alternative. Puis, tu sais, des fois, les partis qui sont dans l'opposition, ils vont avoir des solutions plus magiques un peu. C'est normal. Ouais. C'est le jeu politique. Mais de dire, bien, on va investir dans nos PME, puis si on devient indépendant, on va moins verser d'argent à Ottawa, ça balance pas. Là. Ça donnera pas autant de jus économique et énergétique qu'une entente comme celle-là. Je trouve que le fait que Christine Fréchette règle avant l'élection, moi, je trouve que ça aide le PQ, Jeff. Parce qu'ils vont pouvoir dire, regardez, c'est des écœurs, hein, ça n'a pas d'allure. En plus, Terre-Neuve nous a volé le Labrador, mais ils n'auront pas à offrir une solution de rechange parce que l'entente est signée. Ils vont pouvoir peut-être dire, nous, on ferait des ajustements, mais d'un fait, c'est réglé.
Oui, ça aide le PQ. Je comprends ce que tu dis, mais en même temps, maudit que le PQ m'a énervé la semaine passée.
Cette entente-là?
Ben oui, parce que, tu sais, je veux dire, on cherche des solutions concrètes, on veut avancer, on veut s'électrifier. Puis eux autres, tout ce qu'ils trouvaient à me dire, c'est « je vais brûler le drapeau du Canada », là, tu comprends, je l'image.
Oui, une petite caricature ici. Mais oui, t'as raison. Puis moi, j'ai l'impression que la majorité des gens, c'est sûr que les gens, ils vont pas lire l'entente avec chacune des phrases.
Non.
Mais l'impression générale que ça donne, c'est qu'on va avoir plus d'énergie. Pour un prix qui est correct, même si on paye... Tu sais, il y avait une affaire politique là-dedans, parce qu'après la signature de l'entente de 2024, ben Andrew Furey a annoncé qu'il ne se représentait pas. Et le chef conservateur, son adversaire politique, a exploité le ressentiment des Terre-Neuviens.
Oui, ils ont fait un référendum.
Oui, on va réanalyser l'entente, on va faire un référendum. C'est pas vrai qu'on n'est pas capable d'aller chercher davantage. Donc là, il fallait trouver ce qu'on appelle en bon français des « face savers » pour tout le monde. Évidemment qu'ils sont allés chercher des gains supplémentaires. Mm-hmm. Ça ne fait pas de cette entente-là une mauvaise entente pour autant. Moi, je trouve que c'est une bonne entente. La seule affaire, c'est que, tu sais, je ne suis pas ingénieur électrique, là, mais quand je vois qu'on rajoute encore plus d'énergie que ce qui était prévu dans la première entente, je veux juste vous dire que ça ne se fait pas comme ça, là, techniquement. Là.
Non.
Fait que soit qu'ils ont trouvé plus d'eau, là, ou soit ça va coûter cher, les amis. Là.
En effet.
Il y a quelque chose qui ne balance pas, mais bon, écoutez, quand on sera rendu là, Christine Fréchette ne sera même plus là.
C'est ça, exactement. Hey, tu l'as dit, c'est un gros été en politique. Ça a brassé beaucoup. On a eu deux sondages qui ont sorti, justement, la semaine dernière. Sondage léger, sondage Palace. Le léger est plus avantageux pour la CAQ au niveau du vote francophone. Le PQ est toujours en tête, mais on parle d'un gouvernement minoritaire. On va se le dire, on va être une méchante belle campagne électorale.
Hey, écoute, comparé à 2022, on est complètement ailleurs.
Ben oui.
2022, on le savait que la CAQ allait
gagner.
C'était
plate,
2022. Ben, c'est ça. Il n'y avait pas d'enjeu.
Le seul enjeu, c'est de savoir si le PQ allait survivre. Puis c'est ça qui est drôle, c'est que 4 ans plus tard, le PQ pourrait avoir des bonnes chances d'être le gouvernement.
C'est la roue politique qui tourne. Le PQ avait de la misère à trouver des candidats. Il présentait des étudiants de cégep. Là, c'est le contraire.
Ah, non, ça, c'est la CAQ.
Ben, regarde, c'est ça. La roue tourne toujours. Écoute, le Palace qui est sorti le 2 août dernier, ce qui était surprenant, c'était de voir le PLQ qui avait pris des points supplémentaires. Puis on se demandait qu'est-ce que le PLQ avait fait pendant l'été pour mériter des points de plus.
Bien, Charles Meilleur avait dit « je suis là ».
Ah, c'est vrai, t'as raison. Ben oui.
Donc là, les gens disent « il existe ».
On l'aime, lui. Il est là.
Quelle mauvaise
le léger, le léger qui est sorti quelques jours plus tard était un peu plus normal, entre guillemets, qui remettait le PLQ à 24% dans le vote général et qui garde le PQ en pôle position. Puis effectivement, la CAQ est en meilleure position. Donc, ça peut sembler pas beaucoup de différence de points, mais en termes de sièges... Ça change tout, parce que tout est dans le vote francophone. Tu sais, quand on vous présente les sondages, on vous parle toujours des électeurs en général, mais quand tu te concentres sur le vote francophone puis comment ça se distribue dans les circonscriptions, ça peut faire toute la différence. En ce moment, dans les projections, la CAQ a 6 sièges. C'est pas énorme, là.
Non.
Mais avec le sondage du Palace, on était plus comme à zéro.
C'est ça, exactement. Donc, sauvera en quelque sorte un peu la mise, au moins le parti. Je veux te parler de James Hughes, le candidat du PLQ. Moi, je l'appelle le Éric Boulay de Montréal, là, parce que c'est exactement ça. Je l'ai eu en entrevue dans Marceau le matin quand je remplaçais Yannick Marceau. Ça nous prend plus de gens comme ça en politique.
Bien, c'est ça. Peu importe le parti politique pour lesquels ces gens-là, qui sont plus issus du monde communautaire, de l'aide, ce qu'on appelle des candidatures sociales, ça fait toujours plaisir de voir des gens qui s'engagent puis qui font le pas supplémentaire vers la politique. Dans un monde où il y a tellement de cynisme puis que c'est très imparfait, la politique, quand je vois ces gens-là qui ont contribué d'une autre manière, mais qui se disent « Maintenant, je veux aller de l'autre bord et aller faire des politiques publiques », on ne peut que respecter ça. Donc ça, c'est une des bonnes candidatures que le PLQ a présentées dans les dernières semaines. Là, James Hughes, qui est à la tête de la mission Old Brewery, qui se présente dans Vaudreuil. D'autres candidatures qui ont retenu mon attention dans les derniers jours, bien, Michel Leblanc aussi,
du côté des libéraux, bien sûr.
C'est un classique, les chambres de commerce. Souvent, c'est un tremplin vers une carrière politique.
Ah oui, tiens, Marie-Josée Morancy rendue à Charlebourg.
J'allais t'en parler de Marie-Josée Morancy, parce que dans la région, à date, est-ce que tu vois d'autres candidatures aussi vedette, entre guillemets.
On tente de parachuter quelqu'un dans Vanier-les-Rivières qui vient de Montréal. Je pense pas que ça fonctionne à Québec quand tu parachutes, ça fonctionne
beaucoup.
C'est
plus difficile. Puis tu sais, être parachuté d'un quartier à un autre, ça va. Mettons que tu te présentes dans Charlebourg, mais que tu habites à Sillery, ça change pas grand-chose. Bien, quoi qu'il y en a que ça peut déranger, mais ça sera pas un impact terrible. Mais de Montréal, c'est sûr que ça passe toujours moins bien. La CAQ qui présente beaucoup d'employés politiques. Il y a Nicolas Lachance dans le Journal de Québec ce matin qui les colligeait pas mal toutes. Puis ça fait effectivement pas mal d'anciens conseillers politiques, attachés de presse, directeurs des coms et directeurs de cabinet qui se lancent pour la CAQ. C'est pas que c'est des mauvaises candidatures, mais c'est sûr qu'on voit que la CAQ a de la difficulté là, à recruter.
Bien, c'est qu'on essaye aussi de nous vendre un van nouveau, de renouveau, la nouvelle CAQ. Bien, je devrais dire la nouvelle équipe Christine Fréchet.
Exact.
Mais après ça, c'est tous des employés qui étaient déjà à l'interne.
Oui, donc ça peut effectivement renforcer l'idée que c'est la bonne vieille CAQ, un peu comme la pub du PQ avec le sandwich. Cela dit, je pense que si certains d'entre eux sont élus, il y a des personnes de qualité à travers ça. Mais c'est sûr que ça fait le jeu des adversaires politiques de dire, voyez, ils présentent des staffers parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions comme telles. Le PQ, ça y va aussi pour les candidatures cet été. Et je pense, Stéphanie Martin, tu disais qu'il va...
Oui, on va la recevoir tout à l'heure à 13h. Est-ce que Elsie Lefebvre est une opportuniste de retourner au PQ?
Je pense pas. Moi, je pense qu'Elsie Lefebvre, c'est une vraie péquiste depuis toujours. Dans ses positions aussi comme chroniqueuse, c'était assez évident.
Il y a personne qui est tombé
en bas de sa chaise.
Quoique, j'oublie son nom, mais la conjointe à Mathieu Bock-Côté que j'ai écouté cet été, Paul Saint-Pierre Plamondon, chie de l'or.
Ah bon?
Quand on l'écoute.
Ah oui, oui.
Oui, oui, Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est le roi.
Il peut rien faire de mal.
Non, il est sur le trône, le roi, il fait rien de mal.
Écoute, c'est le fun pour un politicien d'avoir des gens comme ça qui te trouvent que tu as toujours raison. Moi, tant mieux pour eux, alors qu'il y a toujours des gens pour te critiquer.
C'est comme Éric Duhaime fait rien de mal dans d'autres stations de radio à Québec.
Exactement.
Là, au niveau de la joute à LCN, Paul Saint-Pierre Plamondon était vraiment sur un
pied. Mais heureusement, nos auditeurs, ils écoutent plein de choses, ils écoutent plein d'opinions différentes, puis ils se font leur propre opinion.
Oui.
Jean-François Cloutier, du journal aussi. Ah, le PQ qui présente pas mal de journalistes.
Ben oui,
fait,
hein?
Ce qui peut faire sourciller des fois.
Ben, parce que ce qui est de valeur là-dedans, moi, puis moi je le dis, c'est que ça laisse place à ce cynisme-là ou à ce complotisme-là de « on sait bien, les médias penchent toujours du même bord » alors qu'il y a des médias pour tous les partis politiques.
Puis ils se présentent, ces anciens journalistes-là, pour plein de partis politiques.
C'est
Mais
ça.
Tu vois, quand par exemple, on me pose la question « est-ce que Elsie Lefebvre, il y a un problème d'éthique, elle faisait de la chronique, là, s'en va en politique. Moi, je trouve ça plus transparent quand c'est des chroniqueurs, parce qu'ils donnent leur opinion. Tu la connais, leur opinion.
Vraiment.
Alors que des journalistes qui sont plus des reporters, bien, c'est sûr que là, le monde, des fois, ils font le saut de savoir, ah, bien, il y avait des opinions politiques, cette personne-là, bien sûr. Est-ce que ça veut dire qu'ils faisaient mal leur travail? Pas nécessairement. Puis de toute façon, je veux dire, on est tous des humains, on a tous nos parcours de vie puis nos valeurs. Même quand tu deviens journaliste, c'est sûr que tu les as encore à l'intérieur de toi, puis tu essaies de faire ton travail avec le plus d'objectivité possible.
Ouais, mais tu sais, de toute façon, Elsie Lefebvre, dans le fait qu'elle était chroniqueuse, on savait qu'elle venait du PQ.
Une ancienne députée.
Fait que là, à un moment donné, tu sais de quel bord elle penche. Là. Il y a juste ça qu'on ne sait jamais. Toi, tu as travaillé au PQ, puis à CAQ, on ne sait pas.
Moi, ouais, c'est ça. J'suis,
on va le savoir le jour qu'elle va se lancer.
Ouais.
Ben, ça serait étonnant que je devienne libérale demain matin, mais écoute.
Ben, ça serait très étonnant, en effet. Là.
Peut-être dans un Québec pays. Qui sait?
Ah, peut-être Québec
solidaire. Peut-être que dans un Québec souverain.
Peut-être Québec solidaire.
Là, ça serait complètement différent. Ouais. Non, mais je pense que les gens savent que je suis une personne nationaliste. Je pense que les gens savent que je pense que le Québec devrait être un pays, mais que c'est pas non plus, là, ça ne me réveille pas la nuit pour haïr le Canada. C'est ça, être chroniqueur. Hein. On a notre couleur. En même temps, moi, je suis pas le porte-parole d'aucun parti. Fait que quand c'est pas bon, je dis pas bon. Puis quand je trouve ça bon, je dis que c'est bon.
En plein ça. Le jour où tu te présentes, par exemple, tu me diras, j'irai avec toi.
Ah, ça, c'est fait.
Ah, oh, ouais, on va faire ça. Rapport de la VG aujourd'hui sur les finances publiques.
Ouais.
Éric Girard dit qu'il reste juste 2 milliards à couper, mais elle a dit qu'il en reste 5.
Ouais, il y a comme
le gouvernement de comptables va avoir eu de la misère jusqu'à la fin.
Ah, mais tu sais, même les comptables ont des débats sur les normes comptables
à utiliser.
Ben oui, en effet,
la façon de...
Puis, tu sais que nous, à l'Assemblée nationale, on n'a pas de directeur parlementaire du budget comme à Ottawa, qui est, à mon avis, quelque chose dont on devrait se doter.
Tellement. Paul Saint-Pierre Plamondon l'a proposé, d'ailleurs.
Absolument. Puis, il y a plusieurs intervenants dans l'espace public, des chroniqueurs, des journalistes qui disent que ce serait vraiment utile, des fiscalistes aussi, parce que...
Oui.
Ça nous donnerait une base plus commune pour analyser les chiffres. Tu peux faire dire n'importe quoi des chiffres dans la vie, OK?
Ça, c'est vrai.
Tu sais, on dit, oh, les chiffres sont têtus. Non, ils sont pas têtus pantoute, OK? Ils sont élastiques. Tu peux les revirer de tous les sens. En tant que spécialiste des communications et non de la comptabilité, je peux vous dire que j'ai reviré des chiffres de toutes les manières pour essayer de rentrer dans mon message au cours de ma carrière. Dans le fond, la VG fait un bon travail, mais elle doit se fier sur ce que le ministère des Finances va lui donner. D'ailleurs, dans son rapport que j'ai lu rapidement, là, je vous ferai pas un résumé complet, mais je voyais qu'elle établissait certaines critiques sur la manière dont on lui présente aussi des chiffres. Parce que là, on s'en va en campagne électorale. Le rapport de la VG sur les finances publiques préélectorales, ça nous sert de base commune pour analyser les promesses des partis politiques.
Clair.
Parce que là, ils vont nous les chiffrer. Puis là, ils vont nous dire comment ils vont atteindre l'équilibre budgétaire. Mais ça, sur quelle base tu vas commencer, ben ça peut changer l'analyse des partis. Donc, ça nous donne un outil pour quand les partis vont nous présenter leur cadre financier. Puis là, je sais que ça fait bailler les gens, les cadres financiers. Je comprends. Mais c'est vachement important.
Ben oui.
Parce que tu me promets mère et monde.
Ça à base.
Combien ça va me coûter? Mm-hmm. Parce que c'est vous qui payez à la fin de la journée. Puis on a vu en 2025, pendant l'élection fédérale, des partis faire des cadres financiers tout à fait créatifs, où tout à coup, des dépenses devenaient des investissements.
Oui, ben oui, parce que
en
là...
En comptabilité, là, c'est pas mal la base. Des dépenses, c'est des dépenses.
Le budget opération et le budget investissement.
Fait que là, le déficit devient bien moins grand, c'est le fun.
Ben, c'est ça, parce que c'est des investissements. Hey.
Ouais, mon chum aussi me dit ça à la maison. C'est ça.
Ben oui, nous prendre une valise puis autre chose, c'est ça. Éric Duhaime, 47 milliards sur 5 ans.
C'est ambitieux.
Ben là, mais c'est parce que, tu sais, c'est de passer d'un extrême à l'autre. Ah, je vais prendre le 20 milliards de subventions, puis j'en donnerai plus. Tu sais, on parlait avec Julie White tantôt, candidate du PLQ, ex-DG de exportateur manufacturier. Tu sais, à un moment donné, tu vas augmenter la productivité, ben, il va falloir tu donnes des coups de main à tes entreprises. C'est ça. si tu veux augmenter leur rendement, si tu veux augmenter les profits, si tu veux créer de la richesse.
C'est une position politique de dire je vais dégraisser puis je vais baisser l'interventionnisme étatique dans l'économie. Mais ça ne donne pas 47 milliards, je vous le dis tout de suite.
Ben non.
Ça ne donnera
d'accord.
pas ça.
Je suis d'accord. Avec
j'ai vu son 47 milliards à Éric Duhaime la semaine passée. Bon, c'est sur 5 ans.
Oui.
Puis je me disais pourquoi pas 50? Pourquoi pas 60?
Ben,
pourquoi
c'est ça, pas 100? Carrière.
Ben c'est honnêtement, si ça se faisait, ça serait.
J'ai juste hâte de voir le cadre financier de Démocratie directe.
Ah, oh, je les avais oubliés. Je pense que on.
Je m'étais dit que je faisais une joke ces autres avec toi.
Ils sont exemptés, eux autres, c'est bien correct. Mais oui, les cadres financiers qui se respectent.
Ouais.
Sont revérifiés par un auditeur externe indépendant d'habitude.
OK.
J'ai hâte de voir qui va vouloir mettre son nom sur un cadre budgétaire qui coupe 47 milliards
en
de
effet,
dollars.
T'as
Je
raison.
Je comprends pas comment ça va arriver.
C'est un excellent point. On termine le caucus qui est maintenant à 12h30 sur les ondes de Boulevard 102 à l'émission On en jase. Nouveau tarif à venir. Le monde souhaite un taco.
J'aime beaucoup les tacos. Je souhaite toujours des tacos. Moi,
J'en ai mangé samedi à La Belle et le Bœuf à Chicoutimi quand je suis allé voir mon gars. Il était bon en crime.
C'est bon, hein, des
tacos. Des tacos bavettes de bœuf.
Exact. Mais dans ce cas-ci, évidemment, on ne parle pas d'une recette Tex-Mex. Non. On parle de Trump qui always chickens out depuis qu'il est arrivé et qui nous menace de tarifs. Souvent, finalement, les tarifs n'ont jamais été déployés. Des tarifs de 50 % sur une multitude de produits, dont des produits qui sont normalement couverts par la CEUM. Ça, c'est un peu la nouveauté. Parce que depuis le début, tout ce qui était à CEUM, c'était comme un peu
exempté.
Trump dit qu'on est nasty, on est méchant, on est dégueu. Donc, il veut nous imposer des tarifs supplémentaires. On fait des blagues avec les tacos puis les insultes de Trump, mais ça ne serait pas vraiment des bonnes blagues si ça devenait vraiment déployé, étant donné qu'il y aurait des conséquences économiques importantes. Il y a plusieurs entreprises qui disent « Moi, si ces tarifs-là sont déployés, je dois annuler un paquet de choses, je dois slacker des gens et il y a même des fermetures qui inévitablement auraient lieu. » J'ai regardé, il y a un sondage Abacus qui est sorti sur justement la perception des Canadiens sur les négociations avec les États-Unis. J'étais quand même assez surprise de voir qu'il y a une majorité de gens, non, c'est pas vrai, 36 % mais c'est la plus grosse part des gens, qui voudraient qu'on fasse des contre-tarifs. Donc, eux trouvent que, dans le fond, Mark Carney n'a pas assez les elbows up.
Oui, mais c'est parce que les contre-tarifs, on a déjà l'inflation dans le piton. Là.
Ouais,
on perd déjà de l'argent dans
la
nos
question,
poches.
C'était, en plus, c'est en anglais, vous me permettrez une traduction.
Ben oui.
Répondre avec des contre-tarifs sur les produits américains, même si ça veut dire que les prix vont augmenter. Donc, les gens, il y a 36 % des gens qui sont prêts à faire des sacrifices.
Une personne sur trois.
OK. Il y a 30 % des gens qui pensent qu'on devrait continuer à négocier sans contre-tarif. Et t'as un 18 % qui dit donner ce que les Américains veulent, en gros. Là.
Ouf, je suis pas là non plus.
Mais voyez-vous politiquement comment c'est dangereux pour Mark Carney?
Ben oui.
T'as 36 % des gens qui disent hey, on y va pas assez fort, on fait trop de concessions. Puis t'as un 30 % des gens qui disent wow, attention, là, on veut pas de contre-tarif parce que ça va augmenter.
Ouais.
Donc, honnêtement, là, je pense qu'un jour, là, pour l'instant, ça va bien, Mark Carney. Là. Mais je vois pas comment tu gagnes dans un jeu avec les perceptions comme celle-là. À chaque fois qu'on donne des concessions à Donald Trump, ça nous donne que dalle
en échange.
Et là, on a concédé sur la taxe Netflix. Bon, les gens, c'était pas tout le monde qui était pour ça.
Wow.
Le pont Gordie Howe, c'est sûr, c'est gênant, mais tu sais, moi, je m'en rends pas compte un matin dans mon porte-monnaie. Là.
En effet.
La gestion de l'offre.
Oui, c'est ça. Là,
ça commence à être un peu différent. On rappelle qu'il y a une élection partielle en ce moment dans Chicoutimi-le-Fjord. Où Mark Carney essaie d'aller chercher cette circonscription-là aux conservateurs. Je sais pas, moi, si le monde de Chicoutimi ne va pas vouloir envoyer un message à Carney. Parce que
en
je pense qu'il y a pas mal de monde fâché qu'on fasse autant de concessions.
Non, t'as raison. J'étais dans Chicoutimi en fin de semaine, puis on me disait que les gens pensent beaucoup que ça va être le Bloc québécois qui va gagner. Justement pour faire contrepoids à Mark Carney.
Message.
On se prend-tu un peu pour un autre? Par exemple, au Québec, quand Christopher Skeet nous dit « Ah, le CEUM, nous autres, ça se peut qu'on n'embarque pas là-dedans. »
Ben, moi, je vois mal comment on peut jouer les isolationnistes
ben, moi
comme
aussi.
Ça. Par contre, dans le même sondage à Bacchus, j'ai été surprise de voir qu'il y a pas mal de monde, 55 % des gens qui pensent qu'on devrait passer à autre chose puis arrêter de penser qu'on va avoir un accord trilatéral avec les États-Unis et le Mexique. Alors que 34 % qui aimeraient qu'on sauve l'ALENA, la CEUM, puis qu'on continue. Donc,
fait que dans le fond, ces gens-là voudraient plus des ententes sectorielles?
Je pense que oui. Puis je pense que les gens, en fait, ont, puis c'est mon interprétation, la vôtre, vous, la mienne, mais j'ai l'impression que les gens se disent on ne peut plus compter là-dessus. Travaillons autrement. Créons d'autres alliances internationales.
J'aimerais ça t'entendre, Antonine, parce que tu parlais d'un sondage à Bacchus, puis je sais pas si c'était dans la même voie, mais Bacchus a fait un sondage le 10 août dernier, puis on voyait que le Parti libéral, au Québec en particulier, avait perdu 11 %
Ouais.
Elle était passée de 48 % à 37 % Donc, on commence-tu à voir justement ces répercussions-là de
oui.
ce conflit qui continue de traîner au Québec pour Mark Carney?
Oui, puis il faut le dire, là, même si les gens savent très bien que c'est pas de la faute de Mark Carney ce qui se passe avec Donald Trump, tout ce qui touche l'économie puis le portefeuille du monde,
c'est
ça
clair.
Fait toujours mal à un gouvernement en place. C'est pas scientifique, mais j'ai fait une ligne ouverte il y a 2 semaines
Oui, non, mais le fun!
Moi, j'aime ça faire des lignes ouvertes, puis j'aime ça jaser avec les gens. Écoute, les commentaires au téléphone des gens, c'était sur la politique en général. Tout le monde avait de quoi de négatif à dire sur Mark Carney et les concessions.
Ouais,
je sentais une colère chez les gens et une incompréhension.
Ben, c'est parce que aussi, quand tu promets mère et monde, il faut que tu livres. Il a dit « Je suis l'homme de la situation pour négocier avec Trump. »
En politique, on se dit « Gagne aujourd'hui, arrange-toi avec tes troubles après. »
C'est ça. Là... en tout cas, il apparaît pas l'homme de la situation présentement. C'est un peu comme la CAQ qui nous a dit qu'on est un gouvernement de comptable, mais on fait les déficits les plus importants.
C'est ça. C'est le contraste entre les deux. Mark Carney est chanceux parce que les gens ne voient pas davantage Pierre Poilievre performer dans la situation.
Ça, en effet. Puis je fais partie de ces gens-là, soit
dit
en passant.
Mais s'il y a quelqu'un qui apparaissait comme un bon négociateur sérieux qui prenait la tête du Parti conservateur, ce que je, en passant, ne crois pas qu'il va arriver parce que la base électorale des conservateurs ne met, t'sais, ils ont voté. Je veux dire, Jean Charest a fait un score gênant à la dernière course à chefferie. Fait que ça vous donne une idée. Là, t'sais, il est devenu, lui, négociateur pour le Canada, mais il n'est pas capable de se faire élire à la tête du Parti conservateur. Donc, bref, tout ça pour dire que Mark Carney est bien chanceux d'avoir Pierre Poilievre en face de lui.
En effet, tu as entièrement raison. Antonine Niacarini, je m'étais ennuyé de faire de la radio avec toi.
Moi aussi,
je suis content. Ça a été un beau caucus.
On se voit demain.
On remet ça demain, 12h30, avant de passer à la pause circulation, Mathias.
Oui, bien, je veux quand même faire un tour rapide. Là. Vous l'aurez deviné, 20 directions ouest entre Taniata et Président Kennedy. C'est au rouge. Même chose pour Guillaume Couture. Hauteur chemin du fleuve en direction ouest, un petit ralentissement aussi. Capitale direction est, ça commence à ralentir entre Pierre-Bertrand et boulevard Neuviale en direction ouest, c'est à hauteur de Laurentienne. En parlant de Laurentienne, direction sud pour accéder à Capitale, quand même un peu d'attente. Quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021, c'est par texto.
Le Québec Tattoo Show est de retour à Québec pour une 3e édition. C'est au Centre de foire de Québec du 21 au 23 août. C'est une centaine d'artistes tatoueurs, une ambiance unique où se croisent art corporel, culture alternative et performance originale. Dont une tentative officielle de record mondial Guinness pour le plus grand nombre de signatures tatouées sur un corps. Le projet Sign My Skin. Boulevard vous invite à vivre l'expérience du Québec Tattoo Show et qui sait, peut-être repartir avec un nouveau tatou. Rendez-vous sur le blvd.fm dans la section concours. Écrivez-nous, c'est quoi le tatou que vous voudriez avoir et vous courez la chance de gagner 2 laissez-passer pour le Québec Tattoo Show et 250$ en carte cadeau pour votre nouveau tatou Boulevard 102.1. On est là pour vous faire vivre les plus belles expériences. Courte pause et par la suite, Stéphanie Martin vient s'asseoir avec nous. C'est la nouvelle candidate du Parti québécois dans la circonscription de Vanier-les-Rivières. Et on va avoir à la suite de Stéphanie Martin, Éric Gingras, président de la CSQ. On va parler éducation, une hausse des refus de 40 % dans les cégeps. C'est très préoccupant.